Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Tout de suite, côté club, tout pour la musique sur France Inter.
Vous êtes ici ?
Oui.
Bonsoir, c'est Côté Club, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes au cœur de la maison de la radio et de la musique, studio 621, pour ce nouveau rendez-vous avec toute la scène française. C'est quotidien, 22h, 23h, on remet le son chaque soir avec Marion Guilbeault. Bonsoir Marion.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
Avec nous ce soir, deux invités, Vanessa Philippe et Mathias Malzieu. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Mathias Malzieu, vous faites votre rentrée littéraire avec un nouveau roman familial, Le guerrier de porcelaine, inspiré d'un épisode de la vie de votre père enfant, caché chez ses grands-parents derrière la ligne de démarcation. Un roman écrit à hauteur de ses 9 ans, un roman d'apprentissage pour un garçon qui souffre d'une angine de questions. Cinquième album pour Vanessa Philippe. Pourquoi quatrième ? Soudain les oiseaux, 11 titres en français et un dernier en anglais au programme Émancipation, mais aussi Disparition. Marion ?
Mercredi soir, c'est le soir des nouveautés nouvelles. 3 sons sinon rien à découvrir vers 22h30.
Eh bien voilà, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et on ouvre tout de suite avec une invitation au départ. Va, c'est la femme sur France Inter. sont là ce soir avec vous, avec nous, Mathias Malzieu, Vanessa Philippe. Premier rendez-vous entre vous deux ?
Oui.
Oui.
Jamais
oui.
vu ?
Non.
Mathias Malzieu, vous signez un nouveau roman qui revient sur les années 44-45 de votre père, enfant caché en zone occupée. Vanessa Philippe, vous, c'est le cinquième album pour Soudain les oiseaux, dédié à votre sœur disparue en août 2019. Vous vous souvenez du moment où vous avez écrit quelque chose sur cette disparition ?
Le premier moment où j'ai écrit quelque chose ? Je crois que j'ai commencé avant un petit peu. Bon, j'étais beaucoup dans le déni, mais inconsciemment, ce que j'écrivais, parce que j'avais commencé ce nouvel album en 2019, ce que j'écrivais avait quelque chose quand même d'assez proche de ce que j'ai écrit après. Donc je m'en suis rendu compte après. Et disons que j'ai surtout écrit pendant le confinement, parce que c'est le moment où, le premier confinement, c'est le moment où je me suis retrouvée dans une bulle avec des oiseaux partout parce qu'il n'y avait plus de voiture. Et du coup, j'en ai profité pour me remettre, quoi, parce que j'étais un petit peu en état de choc, beaucoup. Et du coup, je crois que c'est là que j'ai vraiment écrit. Mais j'avais commencé un petit peu avant, déjà.
C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'oiseaux à ce moment-là.
Oui,
hein.
ouais.
Il y avait même des canards. Hein. Ouais, il y avait des canards qui se baladaient dans la rue.
D'un coup, on entendait, ouais. Oui.
C'était très étrange. Écrire le deuil, la disparition, vous l'avez fait vous aussi, hein, Mathias Malzieu, avec ce qui était d'ailleurs votre premier roman en 2005.
Fait, oui.
Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, c'était après la mort de votre mère. Comment ce roman, à l'époque, avait été reçu et compris par votre entourage, par votre famille ?
Ça a été quelque chose d'émouvant parce que il y avait en plus cet équilibre entre quelque chose de très réaliste et quelque chose de aussi métaphorique avec ce géant qui vient me donner un bout de son ombre et qui est devenu un spécialiste du deuil parce qu'il n'est jamais mort.
Ça, c'était dans le roman.
Et du coup, ça donnait une espèce d'équilibre. Il y a des gens qui se rattachaient un petit peu à la dimension onirique, même dans la famille, et d'autres plus au réel. Et ça a permis de se parler, en fait, de rendre les choses un tout petit peu moins taboues. Et en tout cas, moi, c'était mon chemin. Il y en a qui peuvent passer uniquement par l'onirique ou complètement par le réaliste. Il n'y a absolument pas de règle. Mais la mienne, mon chemin, mon jeu, ma petite cuisine pour arriver à me sortir de ça et créer un petit peu de lumière là-dedans pour pouvoir communiquer ne serait-ce qu'avec les miens dans un premier temps, c'est une bonne question. Ça a été ça.
Vous comprenez justement cette dimension, ce dispositif pour vous, Vanessa Philippe ? J'imagine qu'on s'inquiète aussi de la réaction
oui.
des autres, des proches, quand on écrit un titre, par exemple, tout à l'heure, on l'écoutera, des titres aussi forts que ce que vous avez pu écrire sur la disparition de votre sœur ?
Oui, ben moi je pense à mes parents, parce que j'ai pas du tout envie de les rendre tristes, mais je me dis que quand ils vont écouter, alors ils ont déjà, enfin ma mère a plus ou moins écouté, je lui ai envoyé les premières vidéos, mais j'avoue que j'hésite à chaque fois, parce que j'ai peur de créer une tristesse, de créer quelque chose que je ne veux absolument pas. Du coup, c'est pour ça que moi aussi j'essaye un peu avec la métaphore, et puis surtout avec les couleurs, de rendre quelque chose de très joyeux. Et c'est pour ça qu'on a choisi avec Pascal aussi
Pascal Parizeau,
oui, des musiques, enfin des instruments virtuels, et fait une musique dynamique et joyeuse, quoi, pour pas se retrouver dans quelque chose de mélancolique et de triste, ce que je veux absolument pas.
Rentrée littéraire donc pour vous, Mathias Malzieu, avec un nouveau roman, Le guerrier de porcelaine, l'histoire donc de votre père, enfant caché à partir de juin 44 chez sa grand-mère. On va y revenir. Mais ce titre, Guerrier de porcelaine, vous l'avez depuis longtemps, depuis l'album Vampire en pyjama en
C'est
2016.
Fait.
On l'écoute.
Y a-t-il plus fragile qu'un guerrier de porcelaine ? Y a-t-il plus fragile qu'un oiseautier en fleurs sous la neige ? Y a-t-il plus fragile que le flacon de ta peau ? Où sont enfermés ton cœur et ton cerveau ? Y a-t-il plus agile qu'un flocon de porcelaine fondant au creux de ton dos ? Y a-t-il plus fragile que ça, plus fragile que toi et moi, oh, oh. Y a-t-il plus fragile que ça, plus fragile que toi et moi, oh, oh.
Y a-t-il plus agile
que tes doigts de fée dingo?
Y a-t-il plus agile
que tes hanches de violoncelle?
Y a-t-il plus fragile
que les symphonies jouées par l'orchestre de tes cris de souris?
Y a-t-il plus fragile
que les flocons de porcelaine jaillissant entre nos peaux? Y a-t-il plus fragile que ça, plus fragile que toi et moi, oh, oh. Y a-t-il plus fragile que ça, plus fragile que toi et moi. Y a-t-il plus fragile que l'amour entre deux guerriers de porcelaine? Y a-t-il plus fragile que l'amour entre deux guerriers de porcelaine? Y a-t-il plus fragile que ça, plus fragile que toi et moi? Y a-t-il plus fragile que ça, plus fragile que toi et moi? Oh, y a-t-il plus fragile que ça, plus fragile?
Le lyrisme de Dionysos avec ce guerrier de porcelaine en 2016, extrait de l'album Vampire en pyjama, vous resituez le contexte dans lequel ce titre est apparu, qui n'est pas étranger au roman que vous publiez aujourd'hui, Mathias Malzieux.
Oui, en fait, j'étais donc à l'hôpital. J'attendais une greffe de moelle osseuse. Et l'ordre des choses était un petit peu trop bousculé. Mon papa venait me voir à l'hôpital. Et je devenais son père, parce que j'étais très vieux avec cette maladie. Je n'avais plus de globules rouges, j'étais très fatigué. Et du coup, il y avait deux choses pour échapper, en fait, au nombre de transfusions que j'allais recevoir et à toutes ces choses-là. C'était le Mondial de foot 2014. Mm-hmm. Et j'étais d'ailleurs venu faire des petites apparitions dans l'œil du tigre à l'époque. Et je m'étais beaucoup amusé, ça m'avait fait beaucoup de bien.
Ici sur France Inter,
tout ouais. À fait. Tout à fait, c'était génial. Et donc avec mon papa, voilà, elle était même venue et tout. Mais quand il y a eu l'hôpital, il y avait encore un petit peu de football, mais j'ai eu envie et besoin de lui faire reparler de cette sorte de légende un petit peu urbaine, familiale, de quand il avait traversé la ligne de démarcation quand il était petit.
9 ans.
Il avait 9 ans. Dans le livre, il a 9 ans. J'ai choisi de lui donner 9 ans dans le livre parce que je voulais qu'il parle à la première personne et qu'on soit dans cette énergie du personnage au présent et que moi, j'ai à retravailler une langue entre ce que je peux ressentir moi, ma langue habituelle, mais aussi me fondre dans les pas d'un enfant de 9 ans et dans le souvenir de mon père. Mais dans la vraie vie, il avait 4 ans.
Ah oui, d'accord. Oui, ça change les choses quand même.
Il a 83 ans. Donc j'avais commencé le livre avec un « Je me souviens » et en fait, je trouvais que ça manquait d'énergie, que c'était mieux d'être présent. Mais effectivement, il a 4 ans, il traverse la ligne de démarcation, caché dans une charrette de foin parce qu'il vient de perdre sa mère qui est morte en couche, donc avec sa sœur également. Et son père, qui est résistant, ne peut pas s'occuper de lui, donc le remet aux mains d'une cousine qui a un terrain des deux côtés de la ligne de démarcation, et il traverse cette ligne de démarcation donc sans le fameux laisser-passer. Je vais dire Auschwitz, mais mon accent allemand est absolument terrible, donc je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Mais en tout cas, le fait est qu'il traverse, il se retrouve donc dans la gueule du loup, comme on lui dit, dans la zone occupée, il n'a pas le droit d'être,
bien sûr, ouais.
Mais chez la grand-mère, qui a une cave bunker sous la ferme, et en plus ils sont victimes des bombardements alliés, parce qu'ils sont en zone finalement allemande à cette époque-là.
Le guerrier de porcelaine, on est en juin 44, le 4 juin 44, ça commence à Montpellier, Villa Yvette, Menou, c'est le surnom de votre père, en vrai aussi.
Oui, tout à fait, il s'appelle Germain, en fait c'était Germenou, donc le petit Menou, et c'est une contraction qui fait Menou. Vous on l'appelle encore aujourd'hui comme ça.
4 juin 44, Menou donc perd sa mère, Mireille, on est en guerre, le père retourne au combat et va envoyer son fils Menou en zone occupée, derrière la ligne de démarcation, chez sa grand-mère qui tient une sorte d'épicerie, c'est ça, une ferme oui. Épicerie. Le roman, c'est le journal que va tenir cet enfant de 9 ans qui raconte sa vie cachée dans une maison dont il ne doit jamais sortir seul, une maison qui a ses secrets. Qui peut bien se cacher au grenier? Qui est ce nazi qui vient chercher des bonbons régulièrement? Qui a volé la boîte que son père lui a confiée avant de partir? Le livre, c'est un an dans la vie d'un enfant que sa grand-mère, sa tante Louise et l'oncle Émile vont protéger, faire grandir. Mais Menou souffre d'une angine de questions. C'est formidable, une angine de questions, on dirait une maladie à la Boris Vian.
Oui, Boris Vian, j'ai eu l'honneur d'être le parrain de son centenaire.
Exactement, oui.
Et effectivement, c'est quelqu'un qui m'a donné envie d'écrire, envie de lire et envie d'écrire. Donc, effectivement, j'aime bien les petites inventions comme ça. Mais typiquement, dans ce livre-là, j'essaie de pas trop en mettre pour que justement on les remarque le plus possible. Des fois, j'aime le côté feu d'artifice, des métaphores, des choses comme ça. Et là, j'avais besoin, un peu comme dans une chanson où on va faire une chanson avec plein d'arrangements et c'est bien pour cette chanson. Et puis, il y a des chansons qui sont mieux avec juste une guitare, un banjo et une voix. Et je pense que ce livre-là, il est plus dans mon côté Leonard Cohen que dans mon côté Iggy Pop.
Un récit à hauteur d'enfant, graphomane, puisqu'il écrit tout le temps, dans un journal, ce qui lui arrive. Il est même question d'une cigogne baptisée Marlène Dietrich. Et moi, immédiatement, j'ai pensé à cette chanson.
Qui peut dire où vont les filles du temps qui passe? Qui peut dire où sont les filles du temps passé? Quand va le temps des chansons se sont données aux garçons? Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour?
Et un peu plus tard dans la chanson, il est question des soldats. Vous auriez pensé à cette chanson quand vous évoquez Marlène Dietrich?
Alors pas typiquement à celle-là, mais c'est vrai qu'elle fait superbement écho. Non, le fait est qu'il y a une histoire avec Lily Marlène, c'est que cette chanson, à l'origine, a été, c'est, le Troisième Reich s'en est emparé comme une sorte de second hymne. Et Marlène Dietrich, qui était donc évidemment anti-nazie au dernier degré, elle l'a repris à son compte. Et en fait, c'est devenu un chant finalement de résistants. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, les nouvelles ne circulaient pas à la même vitesse, ce qui fait que quand on entendait cette chanson chez quelqu'un, on ne savait pas si c'était quelqu'un qui était pro-nazi ou pro-résistance. Et il y a eu un moment dans le livre, et c'est une histoire que mon père m'a racontée, où la grand-mère coupe la radio parce qu'un Allemand en rentre dans l'épicerie, et il y a Marlène Dietrich, et l'Allemand s'en inquiète pas, alors qu'en fait, elle écoutait vraiment Radio Londres.
Je reviens à ce journal de Ménou, donc votre père, quelque chose qui me fait penser au journal que vous avez vous-même tenu en 2013 pendant votre hospitalisation, journal d'un vampire. Écrire, c'était tenir pour vous?
Écrire, ça a été vraiment très important pour moi, même si peut-être que l'essai aurait pu ne pas se transformer, ne pas sortir. Puis le fait est qu'en fait, quand je l'ai fait ensuite lire au professeur qui m'a greffé, et que j'avais encore un doute sur est-ce que j'en faisais un roman, est-ce que c'était... Il m'a dit, mais sortez-le comme ça. Pour nous, c'est un document extraordinaire. Donc là, j'avais plus de doute. C'est comme quand, par exemple, pour Le Guerrier de Porcelaine, je voulais le sortir de toute façon, mais quand j'ai reçu le petit message de mon père qu'il avait lu pour la deuxième fois et qui m'a dit, j'ai autant chialé qu'éclaté de rire, et ben, en fait, je me suis senti complètement détendu sur la façon de défendre ce livre.
Alors justement, revenir aujourd'hui sur un an de la vie de votre père, ça prend quel sens dans votre parcours de fils? Mais aussi d'artiste, Mathias Malzieu.
De fils, c'est moi. Je suis extrêmement reconnaissant de l'éducation que j'ai eue avec ma sœur, avec ma maman qui est partie trop tôt, l'équilibre qu'il y avait entre les deux, parce que on a été vraiment éduqués dans un esprit de tolérance, mais avec un cadre. C'est-à-dire que c'était pas open bar, mais vraiment on nous a dans l'antiracisme. Mais dans un antiracisme qui aujourd'hui je qualifierais d'universaliste, justement, qui ne tombe pas dans les choses d'identité identitaire. Et il y a toujours comme ça. Mon père des fois pouvait être assez dur, mais était toujours extrêmement juste. Et aujourd'hui, et je pense même quand j'ai été malade, finalement, il m'a fabriqué des armes joyeuses pour rester concentré sur la joie. Donc j'ai rendu un hommage à ma mère une fois qu'elle était partie, parce que j'étais encore jeune et j'avais fait seulement quelques chansons à l'époque. Et là, voilà, mon papa, il y avait longtemps que je voulais rendre hommage à cette histoire que j'ai toujours trouvé extraordinaire. Quand on était petit, qu'il nous montrait les films Super 8 ou des photos de l'oncle Émile et lui avec son vélo à la Fromule, après la frontière, tous ces trucs-là, c'était comme un peu magique et puis transformé par son souvenir et par ce que j'en ai fait. Et j'avais envie d'en fabriquer un roman, de faire une petite cuisine entre le contexte historique, ce qu'il m'a raconté et ce que j'ai pu en ressentir.
Alors le livre est aussi encadré par votre propre témoignage. Vous avez rencontré, vous dites, le 26 mai 2019, les mères allemandes qui, dites-vous, vous ont remis au monde et que vous avez trouvé grâce au livre Journal d'un vampire. Vous pourriez peut-être expliquer cette histoire?
Oui, c'est une histoire un peu folle. En fait, le fait est que je travaillais un petit peu quand j'écrivais le Journal d'un vampire en pyjama comme un journaliste, un auto-journaliste qui enquêtait sur... Et le jour où j'ai été greffé, le fait est que sur la poche, il y avait un nom de code. Parfois, ça n'y est pas. Là, le fait est qu'il y était. Et je l'ai noté. Vous savez, comme des fois, on note un numéro de téléphone qu'on oublie de changer. Donc, j'avais aucune arrière-pensée, mais le fait est que j'ai laissé le bon code. Et puis, le film est sorti, le livre est sorti dans quelques pays, dont l'Allemagne. Ouais. Et le fait est que la directrice de l'hôpital qui avait trouvé le sang de cordon qui m'a permis, donc, Moi, genre, j'étais greffé par sang de cordon. J'ai changé de groupe sanguin. C'est des cellules souches qui ont été conservées dans l'azote liquide à moins 120 degrés pendant 15 ans et qui m'ont été enfoncées dans ma propre moelle osseuse pour qu'elles repoussent comme des graines, quoi, quelque part. Et ben, du coup, elle a vu le code et elle a vu que c'était DUCB. Ça voulait dire Düsseldorf Cord Bank. Donc, elle a tapé dans sa base de données. Elle a retrouvé la mère. Le fait est que la mère travaillait dans l'hôpital et que c'était une Allemande. Pourquoi c'est une Allemande ? Moi, mon père, il est né à la frontière allemande. Donc, on sait bien que c'est le même peuple. On sait très bien qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a tracé et qu'en plus, cette frontière, on le sait, elle a bougé tout le temps. Donc, il y a une espèce d'ironie là-dessus, sur qui est allemand, qui est français, à quel moment et quand. On le sait depuis la guerre de Prusse. Mais le fait est que j'ai été sauvé du sang allemand, alors que moi, j'avais une maman oranaise espagnole. Donc, ma sœur ressemblait plus à ma maman, plus mate de peau, etc. Et moi, j'ai tout pris de mon père. Là, j'ai des taches de rousseur, j'ai les yeux verts, j'ai tout comme lui. Et en fait, quelque part, c'est cette proximité qui m'a sauvé. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de gènes très clairs de ce côté-là qu'on a pu trouver un sang de cordon qui m'a sauvé. Donc ça met une ironie douce sur la grande et la petite histoire, parce que évidemment la mère de mon père, j'ai avant de dire ma mère tellement je me suis mis dans le personnage, mais c'est ma grand-mère. Elle est née en territoire allemand parce qu'elle est née avant la Première Guerre mondiale.
Bien sûr. Ouais.
Puis elle est quelque part décédé à cause des Allemands, à cause de la guerre. Et puis mon père, il a pas vu son père pendant toute son enfance à cause de cette guerre. Et il a évidemment détesté les nazis plus que les Allemands, mais les nazis. Donc il y a tout ce truc-là. Et quelque part, moi, son fils qui est encore en vie, j'ai du sang allemand qui couse dans les veines. Donc voilà, quelle connerie la guerre, disait Prévert, je crois qu'il avait raison.
Et vous les avez rencontrés ?
Je les ai rencontrés, je suis parti en vélo parce que quand j'ai reçu cette lettre, j'avais besoin de mériter mon miracle. Je me suis dit que à prendre un train ou un avion, dire bonjour, merci beaucoup. Donc il a fallu que je digère cette info, que c'était possible.
Vous êtes allé en vélo jusqu'en Allemagne?
En vélo électrique, hein, je vais pas complètement mentir. Mais j'ai fait Paris-Düsseldorf en vélo, j'ai dormi que dans des péniches, dans des cabanes et dans des choses comme ça pour assurer le continuum féerique du désir que j'avais de vivre cette expérience. Et j'ai rencontré effectivement non seulement la directrice, mais la maman biologique, mais aussi ma jumelle de sang. C'est-à-dire qu'on se coupe, moi j'ai changé de groupe sanguin et j'ai le même que sien. Et j'ai le même ADN, pas de tout mon corps, hein, mais j'ai le même ADN du système immunitaire qu'elle. Elle avait 15 ans quand j'ai été greffé, elle en avait 22, elle fait médecine, et on s'est retrouvés tous les quatre devant des espèces de citernes fumantes d'azote liquide dans lesquelles étaient d'autres cordons, et où son cordon avait été pendant 15 ans avant qu'il le trouve pour me sauver.
Mathias Malzieu et Vanessa Philippe sont membres de Côté Club ce soir. Vanessa Philippe de retour avec un cinquième album. On va en parler dans quelques instants. Tout de suite, j'ai encore besoin de vous, Mathias Malzieu, puisque vous avez regardé la playlist de France Inter et vous avez choisi Feu Chatterton. Pour quelle raison?
Parce que je les adore. C'est simple, hein. Il y a des moments, il faut pas trop intellectualiser. Je les aime sur scène. J'aime ce qu'ils défendent, comment ils le défendent, l'évolution de leur esthétique sur leurs albums. En plus, j'ai une anecdote assez amusante avec Arthur. Le fait est que
Arthur Teboul.
Oui, le chanteur. On joue avec eux et on balance, il reprend une chanson à nous. Donc je vois, c'est sympa et tout. Me fait, écoute, j'ai une histoire. Un jour, j'arrive dans le métro en courant et je tombe et je fais tomber tous mes livres. Et il y a un gars qui sort du métro pour m'aider à ramener mes livres dans mon sac et qui attend le métro avec moi. Et c'était toi. Et le fait est qu'à l'époque, je connaissais déjà Dionysos. Mais il est quand même plus jeune que moi, donc il était assez adolescent. Et moi, on venait de me donner mon premier livre chez Flammarion, qui était donc maintenant qui fait tout le temps du sur toi. J'en avais un exemplaire. Et le fait est que je lui ai donné. Et je m'en suis souvenu après, mais je n'avais pas fait le rapprochement. Et je l'ai retrouvé, donc c'était à 7, au Théâtre de la Mer, où il m'a raconté cette anecdote. Donc on est un petit peu liés, mais c'est pas non plus un copain que je vois souvent. Mais c'est vraiment, je les suis et je les aime beaucoup et je trouve leur album sublime.
Ben vous les regarderez aussi aux Victoires de la Musique parce qu'ils sont nommés dans plein de catégories.
Pour eux
tout de suite, Cristaux Liquides dans Côté Club.
Moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il de sauvage? Dis-moi, que reste-t-il? Ouais, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Adieu vieux monde adoré, adieu vieux monde adoré, une image oubliée sur un bout de papier,
un quoi. Si punk, iroquois, crypto-chat, bikini turquoise, suis-je sur la toile? Ah ouais, j'appelle à l'aide, mais je ne sais ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise, ni qui ni pourquoi, bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais. Je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Que reste-t-il? D'un vol des tourneaux, ça te plaît? Assoiffé de cristaux liquides, devine combien de vues ça lui fait. Ok Google, quel est-il? Celui auquel on sacrifie. Certains disent qu'il eut un fils. Quant à moi, je n'y crois pas. Non, moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile.
Chatterton sur France Inter, tout de suite une autre folie, un autre feu, celui de Marion Guilbeault pour les nouveautés nouvelles.
Alors, quelles sont les 5 œuvres musicales que vous préférez?
Côté
votre top des disques.
Vous pourrez écouter chez moi dans un club.
Sur France Inter.
Des nouveautés nouvelles qui s'ouvrent avec un retour, Laurent, c'est celui de Cascadeur, cet artiste qui cache son visage derrière un casque, mais pas ses sentiments. La signature de Cascadeur, c'était et c'est toujours cette voix de tête, tête de pont d'une musique ample, imagée, émotive. 3 albums et une victoire de la musique en 2015 lui ont permis de développer un écosystème entre pop et cinéma. Aujourd'hui, le musicien messin revient avec un titre en français. Il se rapproche ainsi de Christophe, avec lequel il partage la passion des claviers et des chansons bleu.
Quitte le sol qui t'a venette, le feu aux poudres sautes quand au cou fondre aux yeux. Tu tiendras promesse.
Cascadeur avec cette promesse, c'est le premier titre extrait de l'album Revenant attendu pour le 11 mars. Encore des claviers avec Kekis, c'est le pseudo que s'est choisi Émilie Tiersen. Oui, c'est la femme de Yann Tiersen. Alors on l'avait déjà repérée sous le nom de Tiny Feet, elle était hôtesse alors d'une pop sombre, envoûtante. En 2022, Émilie redémarre ses logiciels, l'intime, elle est devenue mère, l'artistique avec Kekis, avec un projet dans lequel elle se reconnecte avec ses racines bretonnes. Alors ça s'entend dans son chant en breton et puis aussi dans sa musique qui doit autant à l'aquatique avec des voix qui flottent qu'à l'éolien, avec des guitares et des claviers qui semble comme froissé par les vents qui soufflent autour de son studio à Ouessant.
Thank you.
c'est signé Kekis, première chanson en breton de son nouvel album Same, qui sortira le 20 mai sur le label Newt, le label de Dépêche Mode entre autres. De l'eau, des claviers aussi avec cet inédit de Gaël Faure. Des claviers dans un univers jusque-là plutôt marqué par l'acoustique. Révélé il y a plus de 15 ans par la Nouvelle Star, le chanteur français n'a eu de cesse de prendre ses distances avec la musique formatée, avec ses trois albums, avec un spectacle magnifique autour de Giono, et surtout avec des chansons humanistes qui collent au plus près des bouleversements de la vie. Pour cet inédit, la mémoire de la peau, il a trouvé les meilleurs camarades de jeu, à savoir Barbara Carlotti, qui signe le texte, et le Canadien Patrick Watson, qui produit cette chanson comme suspendue.
Au centre de la terre, au centre de la vie, l'eau garde en elle le secret de ce qu'elle.
La mémoire de l'eau, une chanson inédite interprétée par Gaël Faure à retrouver sur la version vinyle de L'eau et la peau. C'est ce titre de son dernier EP, Cascadeur, Kekis, Gaël Faure. Et un son qui a retenu votre attention, Vanessa Philippe, Mathias Malzieu.
Moi j'ai beaucoup aimé Cascadeur.
Ouais.
Et j'ai beaucoup aimé aussi...
Kekis.
Oui, exactement. Ouais, ouais. Je trouvais ça très évanescent. J'aime beaucoup.
Ouais, j'ai été surpris aussi par... par Gaël Faure, que j'aime beaucoup.
Oui.
J'avais eu la chance de programmer aux Têtes de la Ville pendant les moments où on faisait des petits concerts captés sans public. Mm-hmm. On essayait de résister un peu comme on pouvait. Il avait fait des choses sur Giono, effectivement.
Ouais, très belle.
Il est génial, ce mec. Et là, cette façon encore de se frotter à Watson et tout, c'est, comme tu dis, évanescent. C'est assez magique, je trouve, cette petite cette espèce de clochette électronique là qui nous emporte. Et puis j'aime beaucoup effectivement aussi, c'est pas juste pour dire que du bien, mais le fait est que j'aime beaucoup Cascadeur et que j'ai adoré le fait qu'ils prennent le risque du français comme ça. Ça lui mène une fragilité en plus. Et je trouve que ça rend, en plus d'être beau et classe et bien vu, ben en plus maintenant c'est touchant.
Mathias Malzieu et Vanessa Philippe sont membres de Côté Club ce soir. Vanessa Philippe de retour avec un cinquième album, Soudain les oiseaux. Et on peut dire que vous avez de la suite dans les idées, question volatile. Ça commence en 2008, album La Dérive, Hirondelle.
Ne me laisse pas, c'est moi, voir ta plus belle hirondelle. Ne me laisse pas, c'est moi, voir ta plus belle. Le cercle d'hirondelles emballées sont toutes plus belles. Elles suivent tes exigences en félicitant mon absence.
Quelques années plus tard, en 2015, sur l'album My Man, je tombe sur Sleepy Bird.
Stories from the park, then sets the sun. Sleepy Bird is asking me another one, please another.
Et en 2018, qu'est-ce que je trouve sur l'album À l'abri du vent, Lady Birds. C'est plus soudain les oiseaux, c'est toujours les oiseaux avec vous, Vanessa Philippe.
Il y a un truc avec les oiseaux.
Manifestement, vous l'aviez repéré quand même, j'imagine.
Non, j'ai pas fait. J'ai pas pensé.
À ce point-là ?
Non, pas du tout. Non, c'est venu. Et encore, la pochette À l'abri du vent, la première photo que j'avais faite avec Martha Bevaca, j'avais un oiseau sur la tête. Et c'était ça, la pochette À l'abri du vent. Et puis après, j'avais vu une autre photo avec un oiseau, c'était pareil. Donc j'ai demandé. Et j'avais fait avec des grenouilles bleues.
Ah oui, changer. C'est autre chose.
Voilà. Mais
est-ce qu'il y a des motifs aussi qui reviennent comme ça chez vous, Mathias Malzieu?
Oui, ben les oiseaux aussi un petit peu quand même.
Ah oui, bien sûr.
Parce que moi j'ai eu coccinelle, j'ai eu coiffeur d'oiseaux, et puis j'ai fait un livre qui s'appelle Métamorphose en bord de ciel où mon personnage, toujours une petite confusion rigolote là avec ça, se transforme en oiseau parce qu'il veut voler. Donc en fait je pense que c'est un rapport à une forme de liberté.
Et au chant. Bien entendu.
Donc c'est voilà, les oiseaux c'est présent.
Cinquième album pour vous, Vanessa Philippe, et cette fois vous signez tous les textes et les musiques, les compositions aussi.
Oui, là surtout je signe toutes les musiques.
Voilà,
ouais. Les textes, je les ai toujours tous
signés. Mais les musiques aussi, oui. Qu'est-ce et qui résistait auparavant? Vous ne vous donniez pas l'autorisation?
Non, c'est que j'ai débarqué dans la musique par le texte, que je ne connaissais absolument rien en fait. Donc j'avais un compositeur qui a pris mes textes et qui m'a dit « il faut que tu les chantes toi parce qu'ils sont très personnels ». Donc je me suis mise à chanter comme ça, mais j'y connaissais rien non plus. Et c'est comme ça qu'est arrivé le premier album, deuxième album avec ce compositeur qui s'appelle Philippe Schmitt. Et au troisième album, j'avais plus de compositeur. Il a pas voulu continuer parce qu'il trouvait que ça prenait pas. Bon, ben, donc du coup, je voulais continuer. Donc j'ai rencontré Naïm Amor, à qui j'ai proposé de travailler avec moi. J'avais composé déjà les premières musiques en anglais, donc j'avais écrit en anglais parce que c'était plus facile. C'est là que je me suis mise à la composition. Je me suis dit bon, je vais essayer de le faire toute seule. Et au final, j'avais pas du tout confiance en ce que j'avais fait parce que je venais de nulle part. Et donc, je me suis dit que forcément, ce que faisait Naïm, c'était beaucoup mieux. Donc, on a juste co-composé quatre musiques. Et le reste, c'est tout.
Ouais.
Voilà, c'est lui qui a tout recomposé.
Et aujourd'hui?
Et le quatrième album, j'en avais fait 6.
Et
là, j'en ai fait
11.
12,
parce qu'il y a le titre en anglais, exactement.
Oui, c'est ça.
On va revenir sur ça. On écoute tout de suite le titre qui donne son nom à l'album, Soudain, les oiseaux. Quelle est l'histoire de cette chanson? Vanessa Philippe.
Alors cette chanson, c'est un peu un dialogue entre ma sœur et moi. C'est un moment où j'étais vraiment désespérée dans la sensation vraiment de perte. Du coup, m'est venu ce texte. C'était comme si elle me parlait en fait. Donc c'est écriture automatique. J'ai écrit « Je suis l'air qui circule », etc. J'ai écrit exactement ce qui est dans la chanson. Et pour moi, c'était elle qui me disait où elle était, en fait. C'est un peu subliminal, mais... Et donc, du coup, j'ai fait cette chanson comme ça, en fait, en écriture automatique.
Je cours dans le vide.
Soudain les oiseaux, extraits de l'album du même nom signé Vanessa Philippe. Je vous voyais très attentif, Mathias Maldieu.
Bah bien sûr. Ouais. C'est déjà la moindre des corrections.
Oui, déjà. Non.
Et en plus, ça m'a beaucoup plu et ouais. J'adorais le passage en fait au milieu avec un, je sais pas si c'est un ukulélé ou un charango, un truc,
ouais, ukulélé.
Un petit ukulélé qui est un peu pris de loin comme ça avec les oiseaux et du coup ça devient extrêmement fragile et puis cette dynamique qui revient. J'aime beaucoup la sensation que ça crée là au casque, comme ça je me suis régalé.
Alors justement, un travail sur le son très intéressant, donc pour un album dédié à votre grande sœur disparue, et on l'entend dans ce titre « Malgré tout ».
Ce soir j'ai de la peine, je suis la fille en pleurs. Ce soir j'ai de la veine, je suis la fille aux fleurs. Je lève les bras, je plonge, je produis quelques sons. À l'autre bout de la rive, je crie ton nom. Car c'est ta mort qui me tape sur le système, c'est ta mort qui me tue, c'est ta mort qui me tape sur le système, c'est ta mort qui me tue.
Vanessa Philippe, dans quelles conditions vous avez enregistré cette chanson? Il y a un son étrange et puis on entend des sons, on entend des gens derrière vous.
Alors on a enregistré en studio et en fait Pascal Parizeau, c'est le roi des samples. Donc c'est lui qui a samplé le son et j'ai rechanté après par-dessus. En fait, j'ai chanté mes chansons a cappella, je lui ai envoyé mes chansons a cappella avec ma mélodie. Il avait les démos guitare-voix en plus et avec la voix a cappella, il composait autour, il faisait sa petite construction. Et après je venais enregistrer les voix définitives.
Ah, c'est vraiment super, hein, ce dispositif.
Ouais, moi j'aime beaucoup cette production un petit peu brute où tout à l'heure on entend les oiseaux. Ouais. Et en fait, c'est pas une posture, genre regarder, je fais un petit machin. Ça joue pour du contraste. Du coup, ça amène un côté cinématographique. On est immergé. J'aime bien parce que ça se fait plus trop. On a tendance à quand même à toujours bien lisser, à laisser rien, pas de cheveux qui dépassent, quoi. Et là, il y a une petite folie. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de traiter le deuil avec une sorte d'énergie positive, je trouve que ça y contribue beaucoup.
Oui, c'est ça apporte une distance, une légèreté, et comme le sujet est grave, du coup, le fait qu'il y ait du bruit autour, une ambiance comme ça un peu festive, enfin moi je trouve ça génial.
Quand j'écoute cette chanson, je me suis dit, est-ce qu'il est possible de la chanter sur scène sans être terrassé par l'émotion? Je vous pose cette question, Vanessa Philippe, parce que ça m'a rappelé le fait qu'on recevait Jane Birkin ici, qui nous avait raconté qu'il y avait sur son dernier album, Oh pardon tu dormais, la chanson Cigarette, qui évoque la mort de sa fille Kate, et qu'elle ne pouvait pas la chanter, qu'il en serait hors de question.
Alors, comme je chante demain soir, c'est une première où je vais vraiment chanter ces chansons face au vrai public, je me suis posé la question. Mais je crois que ça va aller en fait. J'ai pris une certaine distance avec mes clips aussi, et voilà, en m'amusant comme ça à faire des images, j'ai pris une certaine distance, et puis maintenant j'arrive à chanter sans être trop dans l'émotion. Mais oui, c'est toujours un risque, mais non, je pense que ça va aller.
5 albums en français, en anglais parfois, et quelquefois même beaucoup. Cette fois, un seul titre, Paradise, vient clore l'album. Extrait.
I miss you so, I would rather die. Life is gone, I don't hear your smile. Hope you'll still in a paradise. Hope you'll still in a paradise.
Il fallait que les mots de la fin soient en anglais pour vous, Vanessa Philippe, sur ce disque?
Oui, c'est aussi une façon de prendre un peu de distance avec ça. Oui, j'espère que tu es au paradis et que tout va bien, mais c'est vrai que comme j'ai toujours été dans le déni, voilà, c'est un petit peu... je sais pas, c'est une sorte... Oui, c'est pour prendre de la distance que j'ai écrit en anglais cette chanson-là. Et puis elle avait quelque chose de plus poétique en anglais, pour le refrain surtout. Voilà, je sais pas, elle est venue en anglais, alors que toutes les autres étaient en français. J'ai trouvé ça très, très joli, phonétiquement.
Au départ, vous le disiez tout à l'heure, hein, vous aviez composé des textes, vous avez demandé à un compositeur de les mettre en musique, il vous a proposé de les chanter vous-même. Au départ, vous n'aviez pas du tout l'intention de chanter?
Non, moi je suis danseuse et chorégraphe, et j'avais pas du tout... penser à chanter en fait. Par contre, j'écrivais depuis toujours. J'ai commencé par des journaux intimes, des poèmes. J'adorais Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Enfin, j'étais complètement. Et ce compositeur cherchait des textes. Donc, je lui ai dit, bah, tiens, j'en ai dans mes tiroirs. Si tu veux, je te les donne. Hein. Tu peux en faire ce que tu veux. Et voilà, ça a commencé comme ça.
Comment vous avez trouvé votre voix?
Ah bah, au début, très bizarre. J'aimais pas du tout. Hein. Au début, je trouvais que j'avais une voix aiguë atroce. Non, j'aimais pas du tout. Après, j'ai appris qu'il fallait poser la voix, il fallait prendre des cours de chant, etc. Mais alors, au début, c'était une catastrophe. Déjà, j'arrivais pas à émettre un seul son. Rien que le fait de m'entendre, j'étais hyper gênée. Ça me faisait un peu peur, quoi. Et puis mon premier concert, j'avoue que j'ai chanté faux pendant tout le concert. Mais j'avais une grosse batterie derrière. J'avais Christophe Deschamps qui jouait de la batterie.
C'est à cause de lui.
Il était
à fond.
Donc c'est de sa faute. Je ne m'entendais absolument pas. Voilà.
Vous avez pris des cours de chant?
Oui, depuis j'ai pris quelques cours. Alors pas tout le temps, mais c'est vrai que je fais des sessions en fait, et c'est très important en fait.
Mais en même temps, quand on est danseuse et chorégraphe, quand on est danseuse, oui, on connaît son corps. Donc j'imagine que quelque chose a dû se mettre en place assez rapidement quand même.
C'est ça, c'est ça. Après, je l'ai abordé de manière plus physiologique qu'au niveau du son, en fait, plus dans les sensations et dans le ressenti. Mais au début, j'avais vraiment quelque chose de complètement séparé entre la voix, la tête et le corps. Enfin, il y avait un truc incroyable que j'arrivais pas à relier. Maintenant, ça va.
Il y a de la danse sur scène quand vous chantez vos chansons?
Non. J'ai pas encore
Cloisonné.
Ouais. Alors, il y a du mouvement dans mon corps, avec les bras, beaucoup. Je danse un petit peu, mais je fais pas de chorégraphie. Voilà, mais j'aimerais bien, pour le concert de sortie d'album, pour celui-ci, j'aimerais bien faire une mise en scène un peu plus élaborée, avec plus de visuels et de mouvements, sans que ça soit comédie musicale et chorégraphie, mais des petites touches comme ça, un peu surprenantes, qui sortent un petit peu du côté duo chanson.
Oh, vous comprenez, vous, ce genre de problématique, Mathias Malzieu ?
Sur le fait de découvrir sa voix ?
Oui.
Ah oui, moi je me rappelle, ça a été une terreur absolue aussi, ça. C'est-à-dire que j'ai commencé tout petit, j'avais vu le film La Bamba, et ensuite j'étais rentré et j'avais pris le micro du magnétophone à cassette, cette espèce de petit micro là qui ressemblait au truc de Léon Zitrone, un peu, vous savez, ces trucs, avec un son évidemment terrible. Et j'étais tellement dans mon enthousiasme que je me suis enregistré par-dessus La Bamba. Évidemment, c'était affreux, parce que je chantais faux, mal et dans un mauvais micro. Et en fait, comme j'étais petit, je me suis dit, ben, en fait, ma voix, c'est ça. Donc, je sais que le truc que je ne ferai jamais, c'est vétérinaire, parce que j'ai trop peur quand les animaux, ils sont malades, et puis chanteur. Mais j'avais 14 ans, et puis finalement, j'ai franchi le pas. Mais après, ça, j'ai mis du temps aussi à prendre, je dirais pas à aimer, mais à prendre suffisamment confiance pour y prendre du plaisir.
Lui aussi, il a trouvé sa voix. On va se quitter avec un petit jeu. Je suis nommé dans les catégories artiste, album, chanson et création audiovisuelle aux prochaines victoires de la musique. Je suis un génie de la communication. Je suis Marion.
Trop facile, Orelsan.
Orelsan, que vous pouvez retrouver en podcast pour son spécial Titre à titre sur France Inter, un décryptage formidable de son album Civilisation. Et comme ça, vous saurez tout sur ce titre. Jour meilleur.
Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-goût déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois j'aurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. Comme dans toutes les chansons de Varia, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. Être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être. Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais. Mon ami, laisse-moi dire deux trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-goût déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois j'aurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.
Jour meilleur pour une nuit magnifique parce que côté club, c'est fini. Merci Vanessa Philippe, merci à vous.
Merci, merci beaucoup.
Cinquième album, Soudain les oiseaux, ça sortira vendredi. Et pour fêter ça, vous serez en concert demain soir au Valrus Disquaire Café à Paris. Mathieu Smalzieu, merci à vous.
Merci beaucoup à vous.
Le Guerrier de Porcelaine vient de paraître chez Albin Michel. On attend des nouvelles des deux prochains albums. Ouais. Deux albums.
Oui, parce que bon, j'en ai composé un avec ma compagne et avec Olivier Davio. Donc c'est une petite comédie musicale comme ça. Et c'est ensuite, c'est pour Dionysos, pour les 30 ans de Dionysos.
Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain.
C'est drôle de nuit, cette drôle d'idée de bien vouloir chez toi danser.
Playlist France Inter, demain avec Alexia Grédy, à ses côtés Pierre Demer et Léo Blomoff. Marion.
Et moi, je serai au téléphone avec le Québécois Vincent Roberge pour parler et découvrir le nouvel album des Louanges.
Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. À la réalisation ce soir, Étienne Bertin. À la technique, Florian Dorémini. Programmation, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic. Et bien sûr, aux playlists, on retrouve Valentine Chedebois. Merci à toutes et à tous. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.